Mesdames et messieurs!
Bonjour!
Bienvenue à cette émission du mois de mars des critiques de Yugi. Je suis Yugi, votre animateur, votre critique, toujours accompagné de mon fidèle comparse.
Oui, absolument.
Bedu.
Bien oui.
Et émission du mois de mars, on n'avait pas vraiment rien d'excessivement précis de préparé, d'où le petit retard. Bedu a mentionné un très bon point tout à l'heure en mentionnant qu'il ne faut pas oublier que l'année passée, il y a eu une grève de tout ce qui est scénariste, suivie d'une grève de tout ce qui est acteur, ce qui retarde beaucoup la sortie de séries et de films, ce qui explique que le temps mort qu'on a dans les salles et à la télévision présentement, il n'y a pas grand-chose en salle, il n'y a pas grand-chose à la télé, ce qui fait qu'on n'a pas grand-chose à critiquer. On pourrait beaucoup écouter tout ce qu'on est capable de trouver sur les sites de streaming, mais étant donné qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment qui sort du lot, on risquerait plus de vous parler de choses plates, puis on est un peu tanné de vous parler de choses plates.
Non, mais on aime ça vous parler de choses intéressantes, des trucs qu'on apprécie, fait autant des fois décaler un peu des sorties d'épisodes, puis de parler de bons stocks.
Voilà. On espère que peut-être les prochains mois vont aller mieux, puis qu'on va pouvoir vous sortir les épisodes tels que prévu, aux dates telles que prévues, mais ne vous surprenez pas si ce n'est pas fait... religieusement, aux bonnes dates, aux bonnes heures, au bon moment précis de la journée. Mais, ce qui m'amène à vous mentionner notre tradition habituelle de chaque épisode, vous êtes présentement sur un site de streaming, que ce soit Spotify, Apple, Google, Balado, peu importe le site sur lequel vous nous avez trouvé, il y a un petit bouton qui s'appelle « Abonner ». Si vous cliquez sur ce petit bouton « Abonner », techniquement, vous recevez des notifications quand on sort des nouveaux épisodes, donc vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vous le dise. Les sites vont le faire pour nous. Mais il y a aussi un bouton qui s'appelle télécharger, ou sinon il y a des ratings d'étoiles. Ça nous aide aussi beaucoup, beaucoup à aller chercher plus d'auditoires. Parce que quand le monde ne sait pas quoi écouter, ils font des recherches, ils écrivent des mots dans les barres de recherche. Puis ben, plus on a d'abonnés, plus on a d'auditoires, plus on a de téléchargements. Ben, plus notre podcast ressort du lot, donc ça nous amène plus d'auditeurs, donc merci beaucoup de le faire. Un autre moyen également, c'est notre page Facebook, qui se nomme tout simplement La Critique de Yugi, donc allez sur Facebook, faites une petite recherche, La Critique de Yugi, trouvez notre page et abonnez-vous. C'est là aussi qu'on vous annonce à chaque fois qu'on sort un épisode, on vous l'indique, on a tout récemment commencé à vous mettre également les bandes annonces des séries, des films qu'on vous présente, ou des jeux vidéo également qu'on vous présente, donc ça peut vous donner aussi une petite idée, vous donner plus le goût d'écouter justement qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus. Donc, abonnez-vous à notre page Facebook et surtout, partagez les posts que l'on fait sur vos pages à vous pour peut-être nous permettre d'aller chercher encore plus d'auditoires. Voilà, c'est fait, c'est dit. Épisode du mois de mars, on vous parle de quoi? On vous parle de 3-4 choses.
On va voir le temps qu'on fait.
Puis on va voir le temps qu'on fait. C'est au moins 3 choses, ça c'est sûr et certain.
Mm-hmm.
On vient tout juste d'arriver, il y a peut-être 15 minutes, d'aller voir au cinéma l'excellent Madame Web, dont les critiques sont particulièrement désastreuses, mais en tout cas, je vais également vous parler brièvement de la série animée Star Wars The Bad Batch, qui en est maintenant à sa saison 3 sur Disney+. Bedu va nous parler de la série Shogun, qui est également disponible sur Disney+. Et si le temps le permet, il va nous parler de...
Un excellent film, Freelance, sur Netflix.
Voilà. Donc, c'est le programme de ce mois. On va commencer tout de suite, parce que c'est tout frais à notre cerveau. L'excellent film de Sony qui se passe dans l'univers de Spider-Man. Je parle de Madame Web. T'as-tu la page devant toi pour Madame Web? Dis-nous donc qui joue dans Madame Web.
Parfait. On a les acteurs principaux, Dakota Johnson.
Dans le rôle de Madame Web.
Oui. On a Sydney Sweeney qui joue le rôle de Julia Cornwall, excusez.
Aussi appelé. On embarque pas là-dedans, on va en reparler plus tard.
Isabella Merced qui joue Anya Corazon. Et Celeste O'Connor qui joue Mary Franklin.
Et on a aussi le gars qui joue...
Il y a Taha Rahim qui joue
Ezekiel
Sims. qui sont les personnages principaux, qui est le méchant, là, Ezekiel Sims, qui est le méchant du film. C'est ça.
Et on a également un personnage. Mentionnons-le, on a un personnage secondaire du nom de Ben.
Parker.
Et oui, amateur de Spider-Man, lorsqu'on dit Ben Parker, on parle bel et bien de l'oncle Ben, celui qui a tout donné à Peter avant qu'il devienne Spider-Man.
Mm.
Voilà. Ce sont les personnages réalisés par...
S.J. Clarkson.
Qui a fait?
Elle a réalisé, entre autres, des épisodes de Defenders et Jessica Jones.
Ah, OK.
Quelques épisodes. Donc, deux épisodes de Defenders et deux épisodes de Jessica Jones. Je fais le tour du reste, là. C'est beaucoup des... C'est de la réalisation de mini-séries.
Ouais, c'est ça. Hein.
Donc, aucun film, je regarde.
C'est de l'indépendant, généralement, aussi.
Ouais, il y a... J'aime bien... Unaired Game of Thrones Prequel Pilot.
Oh, OK, sure.
Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui a réalisé des séries télé collatérales. Succession, un épisode. Mais tu sais, c'est rien là, de gros.
Donc, Madame Web serait genre sa première méga-production.
Oui, je le confirme selon IMDb.
D'accord. C'est également produit par la compagnie Sony / Columbia Pictures en association avec Marvel. Et j'en parlais avec Bedu dans l'auto. Il ne faut pas confondre Marvel de Marvel Entertainment, a Walt Disney Company. Ce n'est pas la même chose. Marvel Entertainment, c'est eux qui produisent les films du MCU, qui possèdent les droits de tout ce qui est Marvel, sauf Spider-Man. Parce que Sony avait acheté les droits de Spider-Man il y a très 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 longtemps et ils ne veulent pas les revendre. Parce qu'ils veulent surfer sur la vague du MCU et essayer de faire le plus d'argent possible. Mais depuis Morbius, ça va pas bien.
Ben, parlant de Morbius,
ouais,
c'est le film, Madame Web, est écrit par Matt Sazama, qui a écrit Morbius.
Eh ben voilà, ça l'explique beaucoup, le scénario fantastique qu'on a avec Madame Web, parce oui. qu'il y a... Beaucoup de lacunes au niveau de la scénarisation. On va parler du synopsis. Donc, Madame Web se passe dans l'univers de Spider-Man. On est en 2003. C'est un origin story, donc on apprend comment Madame Web a eu ses problèmes, ses pouvoirs. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, je peux vous le mentionner. Madame Web est une personne qui voit et le passé, et le présent, et le futur de tous les univers qui peut exister. Donc, c'est elle qui voit... C'est plutôt qu'elle est reconnue comme étant celle qui contrôle un petit peu le Spider-Verse. Elle voit tout ce qui se passe et dans le passé, et dans le présent, et dans le futur. Et elle aide. Elle a comme regroupé plusieurs Spider-Man ensemble pour créer une genre de faction de Spider-Man pour protéger non seulement leur propre univers, mais d'autres univers également. C'est le principe de Madame Web. Donc, c'est un origin story. On apprend comment elle va acquérir ces pouvoirs-là, en commençant par l'histoire avec sa mère en 1973. On voit un petit peu ce qui se passe à la naissance. Et là, on nous amène en 2003 le personnage qui rencontre les trois autres actrices, les trois autres personnages, Julia, Anya et Maddie, et qui... tout en essayant d'apprendre comment contrôler son pouvoir, se rend compte que ces trois filles-là sont en danger. Il y a quelqu'un qui veut les assassiner. Donc, un petit peu malgré elle au début, elle finit par se donner le devoir de les protéger. Elle se bat à ce moment-là contre le méchant, justement, pour essayer de sauver ces trois filles-là.
Mm-hmm.
Grosso modo, le synopsis, c'est ça.
Oui, oui.
Quand même assez simple. Pas vraiment de difficulté à comprendre cette histoire.
Non.
Faut se mettre dans le mode je suis dans un univers de Marvel, je suis dans un univers de Spider-Man, il y a beaucoup de choses qui sont très super-héros, donc ceux qui sont très terre-à-terre et qui n'aiment pas ce type de film-là n'aimeront pas Madame Web déjà en partant. Faut vraiment se mettre dans le mode, c'est un film de super-héros, donc il peut très bien se passer des affaires qui font absolument aucun sens, mais dans les comics ça fait du sens, donc à l'écran ça fait du sens, faut se mettre dans cet esprit-là.
Mm-hmm.
Ceci étant dit, je vais léguer la parole à Bedu sur un certain point qui ne fait pas de sens dans le film de Madame Web. Il y a beaucoup de choses qui ne font pas de sens.
Oui, parce que l'essentiel du film, ça va. Il y a beaucoup de problèmes de concordance. Des choses qui nous semblent, je ne veux rien divulgâcher, mais des choses qui nous semblent évidente.
Qui devrait être logique.
Ouais, mais à un moment donné, là, Cassandra Webb, elle est recherchée par la police. Mmh. Là, je spoil vraiment rien. Et il y a plein de choses que, je dis, moi, être la police, je l'aurais retrouvée.
Mm-hmm.
Dans telle situation, telle situation, telle situation. Fait que là, je fais comme, ouais, ok, là, tu sais, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Puis c'est ça qui, tout le long, il y a beaucoup de choses qui sont comme, je dirais pas crédibles, mais tu sais, qui sont comme, ouais, c'est évident que là, ça aurait pas fonctionné, mm-hmm. ça. C'est tout le
mais
long.
Tu peux donner l'exemple du taxi.
Ouais, ben c'est ça. Ben, maintenant, elle va voler un taxi, elle enlève la plaque pour se faire retrouver, le taxi est accidenté. Puis elle va le laisser à une place. Elle se promène avec, personne ne l'intercepte, aucune police intercepte le taxi.
Elle part même en voyage à un moment donné.
Puis là, tu fais comme. Mais moi, je l'aurais retrouvé, là, mm-hmm. tu sais. Fait que c'est ça que
tu m'as dit. Tu pars en voyage, tu reviens une semaine, puis t'es encore le même taxi, il y a comme personne qui s'est posé de questions. C'est un peu weird. Hein.
C'est ça qui fait que. Tu sais, moi, je suis moins fan fini au niveau de la je veux dire pas, la véracité ou le fait de se coller sur la. Les comic books, t'sais, moi, Madame Web, je savais à peu près c'était qui l'a vu dans le dessin animé, là, la vieille madame aveugle, puis tout. Mais tu fais comme. Si je regarde le film, en tant que production, en tant qu'histoire, l'histoire me va. Il y a des bouts là, où, quand elle commence à découvrir ses pouvoirs, j'ai trouvé ça c'était bien fait. Les flashbacks dans le futur, elle revient. Avant dans le futur, elle revient. Tout ce qui se passe, ça va. Mais là, je fais. Ouais, mais là, gars, ça se peut pas que ça soit. Qu'elle se soit pas fait pogner là.
C'est vraiment en plus au niveau de ce qui devrait être réel,
ouais.
plus que le fictif, voilà. qui marche pour.
C'est ça. Les bouts dans la vraie ou réelle, ça s'additionne.
T'sais, c'est là. Ça. Tu l'as mentionné, la fille, elle se fait rechercher, mais en même temps, la police n'a aucune idée à quoi qu'elle ressemble, ne savent pas son nom non plus, et elle va éviter d'entrer par la porte principale de son appartement de peur de se faire pogner. Ouais, mais cette fille, il n'y a personne qui sait t'es qui encore.
Oui, c'est ça.
Et le journal.
Oui,
il y a un article dans le journal qui parle justement de cet événement-là à moins de 24 heures. On n'a même pas fait 24 heures encore. On n'est même pas rendu au lendemain. Puis ça fait déjà la une des journaux. J'ai trouvé ça weird.
Ouais, ben c'est ça. C'est un peu comme si le journal imprimait une copie en courant de journée.
Ouais.
Un journal physique, là. Mettons. Le
Journal de Québec, mettons. Là.
Oui, c'est ça. Ben là, c'est le Daily Bugle.
Ouais.
Où est-ce qu'ils font. T'sais, on est en 2003, fait qu'il n'y a pas les nouvelles sur nos cellulaires au jour le jour, mm-hmm. comme là, une notification, mettons, telle personne est recherchée. Là, c'est comme si le Daily Bugle avait réimprimé un journal à midi et 20 qui dit ah, telle chose est arrivée. Tu fais, ouais, là, ça marche pas.
Oui,
le côté réel de la vie de tous les jours.
C'est comme laissé de côté.
Ouais, ça, c'est ce qui m'a dérangé dans le film. Le reste. Ben, je vais te laisser commenter. Le reste, c'est pas si pire. Quoi.
Je vais commenter sur l'acting.
Oui.
On se le cachera pas, le film fait 4 semaines, je crois, qu'il est sorti. Il y a déjà beaucoup de critiques qui sont sorties. J'en ai lu beaucoup. Et je suis d'accord sur l'une des principales critiques qui dit que Dakota Johnson, aussi bonne actrice qu'elle puisse l'être. Son jeu d'acting dans celui-là, elle ne gagnera pas des prix pour ça. Là.
Ouais, mais c'est une bonne actrice.
C'est très basic.
Ben, elle avait fait 50 nuances de gris.
Ah, ouais,
c'était pas extraordinaire
non plus. C'est pas une Jodie Foster ou d'autres actrices, Kate Bissingle, des affaires de même. Là. Ça reste quand même une jeune actrice qui n'a pas nécessairement un gros portfolio, mais elle a rarement été critiquée pour son degré d'acting dans les autres films,
mm-hmm.
contrairement à celui-ci, où si on la compare aux autres acteurs, aux trois autres filles, admettons,
mm-hmm.
je trouve que les trois autres filles jouaient quand même bien leur rôle de jeune adolescente, même si c'est aucunement des adolescentes, elles jouaient quand même bien leur rôle,
oui.
Qui n'est pas nécessairement des rôles super principaux, sont quand même relativement secondaires, mais sont importantes à l'histoire parce qu'ils font partie du cœur de l'histoire en tant que telle. Mais je trouve qu'ils l'ont quand même bien joué. Je trouve que l'actrice qui joue Mattie, en effet, joue très bien son rôle. Même celle qui joue Anya, j'ai trouvé qu'elle jouait très bien. Sydney Sweeney, elle joue une genre de nerd un peu timide, mais le corps ne fit pas avec le personnage. On se le cachera pas, Sydney Sweeney, c'est une très belle femme qui n'a pas l'air du tout d'avoir 16 ans. C'est peut-être que le personnage a mal été monté, ce qui est ce qui a rendu peut-être l'interprétation difficile, peut-être, mais elle était quand même pas si pire. Et ça m'amène au jeu d'acting du méchant, Ezekiel Sim. Encore là, je sais pas si c'est parce que le personnage est nul à chier que l'interprétation est difficile à faire, mais il n'a pas rendu le personnage crédible. Mais tant qu'à moi, zéro point de barre. Le méchant n'est aucunement crédible. Pour ma part, moi, j'ai vraiment pas aimé le méchant. Je trouve qu'il est mal joué, il est mal apporté, il est mal amené, il est mal cadré. Même le visuel de quand qui jump d'un bas, j'ai trouvé ça saccadé.
Oui, ben.
J'ai pas trouvé que le film avait un beau visuel à ce niveau-là. Ils ont pas de bons effets spéciaux.
Non, c'est beaucoup au niveau des effets spéciaux. Dans certains moments là, où est-ce que justement là, ils se déplacent, c'est. Ouais,
okay. Ah non, c'est sûr.
C'est overproduced, comme on dit, c'est surproduit.
Ouais. Mais j'ai trouvé le méchant. Oui, le méchant, son but, sans trop rien divulgâcher, c'est d'attraper les trois filles. Oui. C'est ça son but. Oui. Mais il se fout complètement de tous les autres. Il se fout même quasiment presque de Madame Webb. On dirait quasiment qu'il n'en a rien à foutre du personnage principal. Et j'ai trouvé que ça faisait... Je trouve que ça faisait un genre de gap dans l'histoire. Je dis, t'as le personnage principal. Normalement, t'as le vilain qui essaye au moins d'attaquer le personnage principal. Non, il a l'air de s'en foutre complètement. Et j'ai trouvé ça ordinaire. Et ça l'a causé, ça l'a causé certains bris de concordance au niveau de la réalité.
Oui.
Puis je veux pas le divulgâcher parce que il y a peut-être des gens qui vont vouloir l'écouter malgré tout.
Ouais, ben quand il va sortir sur les plateformes de diffusion, plusieurs personnes qui vont l'écouter.
Ben, c'est ça que je me dis, tu sais. Mais il y a un moment dans le film où moi, je me serais mis à la place du vilain. Madame Webb aurait pas toffé longtemps, là. Ça aurait été fini très, très, très rapidement, là. Je veux dire, le film aurait pu très rapidement se terminer, puis merci Madame Webb, c'est terminé, ça finit là, mais le méchant est poche. Je pense. Musique. Ben basique pour un film d'action.
Ouais, mais il y a beaucoup
de musique des années 2003.
C'est ça, je trouvais ça quand même.
Ça, c'était correct. C'est une bonne petite recherche. C'était pas une recherche compliquée à faire non plus. Parce non. que c'était pas des. Si je veux dire, c'était les hits de l'heure, genre Toxic de Britney Spears. Puis il y a eu une toune, je pense, de... voyons, j'ai juste Garbage en tête, mais c'est pas ça. C'est pas grave. Ça n'a pas d'importance.
No Doubt.
No Doubt, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc voilà, on a de la musique quand même des années 2003 qui est relativement bien placée dans le film. On a parlé du visuel qui est correct, mais les effets spéciaux. Des effets spéciaux qu'on dirait des années début 2000, là, ça, on dirait que ça n'a pas été peaufiné du tout.
Ouais.
Et scénarisation difficile, même si l'histoire même de Madame Webb est bien construite pour le personnage. Un non-connaisseur de l'univers de Spider-Man va probablement apprécier l'histoire quand même, contrairement à des connaisseurs un peu comme moi qui a trouvé beaucoup de trucs qui marchent pas. Je peux juste mentionner, exemple, le personnage d'Anya dans une vision de Madame Webb où elle la voit dans le futur, elle porte un costume d'une des Spider-Girls, mais ce n'est pas le bon costume. C'est-à-dire le costume qu'Anya porte, c'est le costume que Julia porte. Donc, il y a comme eu des petites erreurs. Je sais pas si c'est des erreurs ou si c'était voulu ou si c'était une idée créative de la part de Sony, mais moi, en tant que fan de Spider-Man, ça m'a accroché, ça m'a gossé. Mais je sais que toi, ça t'a pas dérangé.
Ouais, parce que je les connaissais pas. À part une, le personnage de Matty, que je la connais parce qu'on l'a vu dans d'autres films de Spider-Man. Ouais. Tu sais, je la connaissais. Les autres, je les connais pas. Fait que moi, ce type de détail-là me dérange pas. J'y vais vraiment plus au niveau de la vision globale du film.
Voilà. J'ai quand même été bien diverti. Je veux dire, j'ai trouvé ça moins mauvais que je m'attendais à ce que ça soit mauvais.
Mais c'est sûr que quand on regarde les notes à la base, on dit « Ih, ça sera pas bon ».
Ben, c'est ça.
Mais honnêtement, c'est quand même là...
C'est meilleur qu'Eternals.
C'est notre référence.
Ceux qui ont
mais c'est un film de 2 heures et j'ai pas trouvé de longueur.
Non, en effet.
Il n'y a pas de moment où je dis, hey, c'est long, mais
c'est vraiment long, c'est vraiment long. Pourquoi c'est là, cette scène-là? La scène est inutile. Il n'y a pas eu de ce moment. Il n'y a pas eu de ces scènes-là.
Là. Ouais, c'est ça.
Parlons notes, justement, qui sont particulièrement très désastreuses. Sur IMDb, c'est un 3.7 sur 10 sur plus de 31 000 reviews. 3.7, c'est vraiment pas bon du tout, surtout pour IMDb. Metascore lui donne un 26, ce qui est vraiment pas bon. Rotten Tomatoes, au niveau des critiques, c'est un désastreux 12% sur 227 reviews. L'audience lui donne un 57, à peu près 1000 reviews et plus. 57% au niveau de l'audience, c'est la plus haute note que j'ai été capable de trouver sur Madame Web. Ma note à moi va virer un petit peu comme l'audience. Moi, je donne un 5.5. C'est vraiment pas un film du siècle. C'est un film de Sony dans l'univers de Spider-Man. Et Sony est incapable de faire un bon film de Spider-Man. Pas depuis qu'ils ont, entre guillemets, perdu le personnage. Au bienfait du MCU. À cause de ça, étant donné qu'ils ont les droits, ils surfent sur la vague du MCU en restant dans l'univers, mais en nous présentant des personnages qu'on verrait pas dans un film solo. Fait qu'ils essayent tant bien que mal de réussir à faire ça, mais Morbius, ça l'a planté raide. Madame Web, ça plante solide. On a Kraven the Hunter qui s'en vient, qui va planter. Je sais que ça va planter aussi. J'ai hâte que Sony comprenne que là, okay, non, là, vous faites plus d'argent. Là. Arrêtez, c'est le temps d'arrêter. Là, parce que là, vous écroulez. Là.
Parlant d'argent, j'ai vérifié un peu. Puis les coûts de production étaient à 80 millions. Et puis après deux week-ends, il était à 77 millions. Donc, ils vont couvrir leurs frais, mais ils ne feront pas vraiment tant d'argent avec ça. Donc, c'est sûr que là, ça a un impact sur la suite des choses, probablement.
Fait qu'il est temps que Sony se débarrasse de ça, honnêtement, qui se décide à dire, OK, là, c'est beau, on vous revend les droits à 100% à Marvel Entertainment, parce que c'est assez. Donc, 5.5 pour moi, Bédu.
Je vais y aller avec 6. C'est correct, j'ai trouvé ça bien, à part les petits bouts dont j'ai parlé, mais... Tu sais, je veux dire, ça m'empêchera pas. Est-ce que je vais le réécouter? Pas tant, parce qu'il sort tellement de choses, mais c'est pas mauvais, là. Mes attentes étaient très basses. C'est pas la première fois qu'on a vu Aquaman aussi. On s'était dit la même chose, mais c'était correct.
J'ai trouvé ça bien. C'est une autre preuve encore qu'il faut pas se fier à 100% à ce que vous lisez sur le web, critiques que vous lisez sur le web. On est beaucoup plus des êtres humains normaux qui donnent des opinions normaux.
Absolument.
Donc voilà, donc un 5.75, disons, pour Madame Web, qui est en salle présentement. Allez, payez pas pour aller le voir.
De toute façon, il restait un cinéma à Québec qui le présentait en anglais.
Ouais, c'est ça.
Donc ça va quitter l'affiche bientôt. Fait
que attendez qu'il sorte probablement sur Netflix, étant donné que c'est Sony.
Ouais.
Vous allez mieux rentrer dans votre argent comme ça. Donc Madame Web, en salle. Merci. Nous sommes de retour pour le deuxième segment de ces critiques du mois de mars, qui sera cette fois-ci présenté par Bedu, qui nous parlera de
Shogun.
Voilà.
Une mini-série sur Disney+, qui est, dans le fond, issue de la chaîne Hulu, qui appartient à Disney. Ouais. La série a commencé la semaine dernière, donc la sortie était mardi dernier, un épisode par semaine à chaque mardi. Donc il y avait les deux premiers épisodes qui sont sortis d'un coup plus le troisième. Il y a trois épisodes vraiment sur 10. 10 épisodes d'une heure, donc présentement 3 de disponibles. C'est une mini-série qui était très attendue parce que les tournages avaient débuté lors de la pandémie au départ. Suite à ça, la grève des auteurs et des acteurs a repoussé, et finalement sorti en 2024. Et honnêtement, je pense qu'ils ont travaillé entre-temps, et ça paraît, l'attente en valait la peine. Qu'est-ce que Shogun? Le Shogun, c'est une série, C'est un remake, dans le fond, d'une série qui a déjà été faite dans les années 80, qui est issue d'un livre de 1975, d'un roman, dans le fond, d'un auteur qui se nomme James Clavell, qui se passe, dans le fond, c'est, ça raconte l'histoire d'un personnage, John Blackthorne, qui est inspiré d'un Anglais, William Adams, qui lui se rend au Japon, comme je disais, en 1600. À cette époque-là, les Espagnols et les Portugais sont des grands, grands, grands navigateurs. Et ils
vont conquérants aussi.
Ouais, et ils vont beaucoup explorer. Et ils vont, entre autres, il y a une guerre qui sévit entre l'Angleterre et le Portugal, les protestants contre les catholiques. Et le début de la série, on met l'accent, oui, sur le Japon, mais on met rapidement un lien qu'il y a de quoi de religion catholique versus protestant. Le personnage de Blackthorne, il va s'échouer son bateau et dans le fond, ils partent à plusieurs bateaux, plus de 100 hommes. Ils se ramassent à peu près 25. Le bateau est démoli. Ils ont perdu. Ils ont plus de voile. Ils voguent un peu au gré des courants et ils vont se ramasser au Japon en ayant passé par le détroit de Magellan au sud de l'Amérique du Sud et ils traversent. Puis ils vont se ramasser parce qu'ils voulaient pas passer, mettons, par l'Afrique parce que c'est contrôlé par les Portugais. Ils ont fait le tour de l'autre bord et ils se ramassent au Japon. Ils vont être, je dirais, accueillis, entre guillemets, plus faits prisonniers par les gens là-bas. Et là, on découvre que les Portugais vont beaucoup aller pour, je dis, coloniser ou plus faire la religion catholique au Japon. Et ils emmènent quand même large en Asie. Et le personnage de Blackthorne est vraiment... Il déteste les catholiques. Là. On voit que c'est viscéral en dedans de lui. Il se fait accueillir par un homme qui s'appelle Yoshi Torunaga qui va se... Suite à la mort du shogun, il y a comme un shogun qui régnait 2 ans auparavant. Il se ramasse avec un espèce de conseil de 5... leader de différentes régions et il y a dans le fond il mène le pays, le Japon, en attendant que le fils shogun ait atteint 16 ans et puisse prendre le leadership.
Le conseil d'administration.
C'est ça, c'est le conseil d'administration du Japon. C'est basé sur théoriquement des faits réels, mais on parle de 1600, fait qu'on ne gagerait pas ma maison là-dessus, mais c'est inspiré du livre qui se base sur des faits historiques. En gros, c'est ça la prémisse des 3 premiers épisodes où est-ce qu'il y a un des leaders qui va comme utiliser les informations que Blackthorne a à son avantage à lui et Blackthorne va aussi utiliser ces informations-là pour sauver sa peau. Ça met, on va faire un petit peu un tour là, de la filmographie, c'est qui joue là-dedans. Celui qui joue le personnage de Yoshi Torunaga, c'est Hiroyuki Sanada.
Il est quand même très connu.
Ben, vous allez le voir, vous le reconnaissez. Il a joué entre autres dans The Wolverine, il a joué dans 47 Ronin. Ah,
47 Ronin, Mortal Kombat aussi.
Mortal Kombat, c'est lui qui faisait Scorpion.
Le premier. Non, je parle le premier Mortal Kombat. Là,
mais il joue dans la remake en 2021.
Oui, mais je pense que c'est lui qui faisait Shang Tsung. Dans le premier, je pense.
Et, il jouait aussi, moi je l'ai reconnu tout de suite, qu'il jouait dans Westworld.
Oui,
quand ils vont au Japon.
Oui, c'est
donc, c'est le personnage principal. L'acteur qui joue John Blackthorne, il s'appelle Cosmo Jarvis. Je regardais sa filmographie. Là,
qu'il est pas super connu. Hein.
Ben moi, je l'avais connu dans Raised by Wolf, une série de HBO qui était... On l'a vu un petit peu là, dans quelques épisodes. Et puis Peaky Blinders, entre autres aussi. Je me souviens de l'avoir vu. Et ça met aussi en vedette Anna Sawai, dont j'ai parlé, qui joue dans Monarch. Elle a fait Toda Mariko, qui est comme l'interprète de Blackthorne auprès des joueurs, parce que Blackthorne ne parle pas japonais. Elle a appris, elle est catholique, c'est une jeune japonaise, et elle a appris le portugais pour avoir fait traduire. J'ai le translation, mais c'est ça.
Est-ce qu'ils jouent la carte, justement, de la traduction avec les sous-titres où ils font semblant que tout le monde parle anglais?
Non,
tout le monde...
c'est là que je m'en vais. Les trois épisodes, c'est en japonais.
Okay.
Sous-titré en anglais. Moi, j'écoute en anglais.
Okay.
La seule chose qui me dérange, OK? Puis là, c'est un des points qui va affecter ma note, mais je vais en parler tout de suite. Quand ils disent qu'ils parlent, mettons, quand Blackthorn parle et que en portugais et que la Mariko va traduire en japonais, mm-hmm. il parle en anglais.
OK.
Mais lui, c'est un anglais. Fait que là,
okay, ouais.
il y a un personnage, Gonzalez, qui un navigateur portugais, qui va lui parler en anglais en disant, il l'appelle Inglés, puis là, il parle en anglais. Ça me dérange un peu. Puis là, je fais la référence à une série aussi sur Netflix qui est The Light We Cannot See, je pense, avec Mark Ruffalo, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a un bon potentiel, mais quand ils disent qu'ils parlent en français, ils ne parlent pas en français, ils parlent en anglais. Fait que là, quand ils parlent en anglais et en portugais, c'est la même chose. Je comprends que c'est dur à caster, faire un casting de gens qui parlent en japonais, portugais, puis en anglais. À un moment donné, ça fait beaucoup, des gens qui parlent trois langues, ça limite. Je comprends que ces gens-là, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait que ce soit en japonais.
Ça me gosse parce qu'il y a beaucoup de films qui l'ont fait puis qui ont pris le temps de le faire. Il y a moyen de l'apprendre. T'as pas besoin de caster quelqu'un qui va le parler. Il y a moyen d'apprendre les lignes que tu vas dire.
Hein. Oui, mais pas pour le japonais, mais pour le portugais.
Non, mais pour le portugais.
Ça aurait pu, mais une fois que tu passes à ça, parce que j'ai quand même cherché d'autres critiques, puis ça pop en disant comment ça que le portugais est en anglais. Mais une fois que tu fais le saut, quand lui il parle, puis elle a traduit, puis elle parle en anglais, tu dis il pourrait parler anglais, puis dire qu'il parle anglais, ça irait. Je pense qu'il voulait juste se coller sur la réalité de l'époque où c'était des portugais, parce que le reste, ça va. Et j'apprécie, comme je dis beaucoup, que ce soit tous les acteurs japonais parle seulement japonais, sauf il y a un acteur qui va parler en anglais parce que lui est en lien avec les portugais là. Mais tu sais, tout ça, tu fais comme ok, moi c'est vraiment bien fait. Et comme d'autres séries, on parlait de Echo l'autre fois, faut que tu la regardes, tu peux pas l'écouter, mon japonais est pas très à jour. Fait que je comprends pas un traître mot de ce qu'ils disent, mais on sent tellement l'intonation des personnages et l'émotion de par la façon dont ils parlent. C'est vraiment, vraiment bien joué. C'est vraiment... L'histoire est à date, sur trois épisodes, l'histoire est très bonne. C'est très intéressant de voir le côté politique des cinq membres du CA du Japon. Et de Blackthorn qui, à côté de lui, est un espèce de... Il nomme comme barbare un peu. Le gars arrive tout sale.
Ouais.
Très, très... le sang très chaud, très, très colérique. Et là, ça le met dans le trouble un peu. On s'attache au personnage qui est vraiment un peu bourru, un peu. Là, tu fais, hey, lui, il va se ramasser dans le trouble, c'est sûr. Il finira pas la saison. Il finira pas la semaine. En 1980, quand la série avait été faite, c'était beaucoup sur le côté de l'anglais de Blackthorn. Là, on met beaucoup l'accent sur la vision des Japonais. Donc,
l'autre côté de la médaille.
Oui, c'est l'autre côté de la médaille, mais en ayant vraiment un côté avec le côté anglais, là, mais c'est sur l'honneur et sur toutes les établis. Il y a des bouts assez durs. Visuellement, c'est
excessivement bien
filmé. C'est beau. Les paysages, c'est sombre, mais on voit quelque chose. C'est pas noir, mais c'est sombre. Donc, tu vois que c'est à l'intérieur des palais. Ouais. Ils vont être à Edo, qui devient Tokyo, mais tu vois que c'est comme... OK, ouais, c'est vraiment, vraiment bien. J'ai beaucoup aimé... jusqu'à date, j'ai très hâte au mardi à ce que le nouvel épisode sorte. Et rayonne dans les critiques.
Oui, c'est ce que j'allais m'en aller aussi. Les critiques sont très, 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 très bonnes pour cette série.
Ben, moi, ce que j'ai vu au début, c'est sur pourquoi je me suis attardé à l'écouter. Mm-hmm. c'est que sur, sur Facebook, sur IGN, ça sort, Shogun saison, premier épisode, 10.
Je fais, hey, ouais, ouais, non, c'est moi quoi aussi, ça? Non, moi aussi, je voyais du 10 sur 10, puis comme, ok. Okay.
Fait que là, j'ai écouté, et ben c'est ça, ça là, ça va dans mes...
ça atteint tes attentes.
Ouais, expectation, j'ai des mots en anglais. Ouais. Mais c'est mes attentes. Comme je disais, le seul bout qui me dérange un peu, c'est le concept de la langue qui marche pas. Mais.
Mais c'est assez minime pour être
capable. Ouais, mais on se fait, on accepte que. Tu sais, au début, beaucoup, ils parlent beaucoup au début de. Ah, oh, tu parles portugais, pourquoi? Puis, ah, oh, moi, je parle portugais, fait, je vais pouvoir le parler. Puis, à un moment donné, ben, ils font juste parler en anglais, puis à traduire. Fait, tu dis, ah, oh, que c'est beau, c'est ça va. Faut pas comme passer les deux premiers épisodes où ça gosse un petit peu. IMDb donne un 9.2 sur 10.
Ce qui est très fort pour IMDb.
Oui, oui. Rotten Tomatoes, les critiques donnent 99%, mm-hmm. L'audience 94%.
Voilà.
Donc, c'est assez généralisé.
Ouais.
C'est, puis là, au niveau, je vais pas parler de la réalisation parce que c'est réalisé, il y a eu 8 réalisateurs.
Ouais, différents. C'est ça, c'est une série télé, c'est rare que c'est le même réalisateur.
Non, c'est ça, c'est deux épisodes, un épisode, un épisode. Fait que, tu sais, on peut mettre ça de côté. C'est vraiment au niveau de, du jeu d'acteur. Anna Sawai, elle est pas extrêmement bonne. Je pense que c'est elle qui a. Parce qu'on l'avait vu dans Monarch que je l'avais trouvé un peu poche. Elle est meilleure là-dedans, mais c'est pas une excellente actrice. C'est une nouvelle actrice dans le milieu.
On a encore du travail à faire. Puis...
Mais elle dérange pas parce que son rôle est. Oui, elle est là dans tous les épisodes, mais elle est pas le rôle principal. Elle, ben, elle est le héros principal parce qu'elle l'interprète. Elle a une histoire à elle aussi qu'elle suit. Mais c'est quand.
L'accent n'est pas mis sur elle.
Hein. Non, c'est vraiment la performance de. Sanada qui est vraiment là, ce gars-là crève l'écran, il est un excellent acteur. Donc ma note à moi pour Shogun sur Disney+, c'est un 9.5 sur 10. À date, là, je trouve ça c'est une des meilleures choses que j'ai écouté dans.
Non, ouais, puis depuis le début de l'année, ils disent tout le monde, tous les grands médias artistiques.
Oui.
Le dire que c'est la série à écouter en ce début d'année 2024. Donc, hein.
Présentement, en date du début mars, on a 3 épisodes de sortie. Est-ce que vous voulez attendre à chaque épisode
pour le binge-watcher?
Pour le. Tu sais, comme dans le temps, puis attendre un épisode par semaine? Vous pouvez, je le conseille. Sinon, début du mois d'avril, les 10 épisodes sont ressortis. Vous pourrez les écouter en ligne. C'est quand même des 1 heure pile, 58-59 minutes. De beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues. Moi, je ne binge-watcherai pas ça dans une fin de semaine. C'est lourd à écouter, à lire, à avoir les sous-titres. Peut-être qu'il y a une version traduite, mais moi, pour moi, c'est important de l'écouter en version originale avec les sous-titres parce qu'on sent vraiment, vraiment, vraiment les émotions des personnages. Donc, je conseille de le commencer et d'attendre à chaque semaine le mardi. Ça fait une belle substance, puis c'est vraiment, vraiment bien fait. Donc, Shogun sur Disney+, à chaque mardi. Allez-y, gaiement!
On part donc au troisième segment. Une série dont j'ai déjà parlé dans les saisons précédentes, parce que c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait partie de l'univers de La Guerre des Étoiles. Vous savez que j'aime beaucoup également cet univers-là. C'est une série animée. La saison 3 est sortie il y a 3 semaines, je crois. Star Wars The Bad Batch. C'est la toute dernière série animée de l'univers de la Guerre des Étoiles. Ça se passe dans le temps des... La série commence très peu de temps après que l'Empereur ait déclaré l'Ordre 66. Donc c'est là que tous les clones se sont virés contre les Jedi. Ceux qui ont écouté les films, vous le voyez dans le film La Revanche des Sith. Le nom m'échappait. Qui est en soi l'épisode 3 de la série chronologique. Et non le troisième film à être sorti. Donc, The Bad Batch, pour faire un résumé rapide, parce que j'en ai déjà parlé, mais si vous ne l'avez jamais écouté, nos critiques de base, premièrement, shame on you, écoutez-nous. maintenant, pour faire un résumé très rapide, The Bad Batch, c'est justement une gang de clones qui ont été modifiés pour avoir certains attributs différents des autres clones habituels. Ils ont donc été un petit peu expérimentés. Ils ne ressemblent pas aux autres clones. Et chacun de ces membres-là ont des attributs particuliers. Il y en a un qui est un excellent tracker, un excellent chasseur. Il y en a un qui c'est un brainiac, qui est super bon au niveau de tout ce qui est technologique. Il y en a un qui est un tireur d'élite. Il y en a un qui est un gros fier à bras hyper puissant. Ils font partie de la batch 99, donc la 99e batch de clones qu'ils ont fait. C'est ceux-là qui ont été modifiés génétiquement. Donc on suit cette batch-là. Qui, eux, n'ont pas été affectés par l'Ordre 66. Donc, ils ont été excessivement surpris que tous les clones se revirent de bord. Et ils sont donc eux-mêmes pourchassés parce que, justement, « Hey, t'as pas suivi les ordres, t'as pas écouté ce qu'on t'a dit, maintenant tu es un ennemi de l'Empire, donc on te pourchasse. » Alors, on a cette petite clique-là qui essaye de trouver leur place dans ce monde-là, dans cet univers-là, tout en essayant de survivre et d'éviter l'emprisonnement par l'Empire. Grosso modo, l'histoire de Bad Batch, c'est ça. Il y a un autre personnage qui a été introduit dans cette série-là qui s'appelle Omega, qui est une jeune fille qui est elle-même un clone, qui a été aussi modifié génétiquement, parce qu'on sait les clones, c'est tous des mâles, mais elle est une femelle. On apprend dans la saison 3 qu'il y a une autre clone femelle qui, elle, par contre, travaille pour l'Empire. Et ça m'amène donc à la saison 3, parce qu'au cours de la saison 2, on a appris que Omega semble être beaucoup plus importante pour l'Empire qu'on n'aurait pu le penser lors de la saison 1. Et l'Empereur est particulièrement très, très, très intéressé à tout ce qui est clonage. Il a engagé un scientifique pour continuer les recherches de clonage. On se rend compte également, surtout justement vers la fin de la saison 2, on voit comment les clones ont tranquillement été remplacés par les Stormtroopers, qui eux sont des humains, sont des soldats engagés par l'Empire. Donc on voit vraiment au cours de la saison 2 comment justement les Stormtroopers ont tassé les clones. C'est encore plus présent en ce début de saison 3. Mais on se rend compte que l'Empereur garde les clones, pas parce qu'il en a besoin, mais pour expérimenter sur eux encore.
Des cobayes,
afin de développer quelque chose de particulier. Ceux qui ont suivi l'univers de la Guerre des Étoiles, ceux qui ont écouté l'épisode 7, 8 et 9, vous allez faire des liens avec la série Bad Batch, de par le personnage de Snoke, qu'on a appris au fil des années que c'était un clone raté de l'Empereur. Et de par l'épisode 9 avec le grand retour de l'Empereur où on apprend dans le film que c'est lui-même un clone. Voilà. Donc la saison 3 nous parle de ça. Les fans ont beaucoup critiqué que ça sortait de nulle part, que ça fait aucun sens puis que c'était juste un moyen pour les productions cinématographiques de faire de l'argent, ce qui était tout à fait vrai à l'époque. Mais M. Dave Filoni, qui a créé la série Clone Wars, qui a créé la série Mandalorian, qui a créé la série Enders, qui crée de plus en plus de séries de la Guerre des Étoiles, qui était le bras droit de monsieur réalisateur de Star Wars.
George Lucas,
merci. J'ai des plans de mémoire ce soir. Qui était son bras droit. Lui a un talent pour tout ratisser ce qui cloche, ce qui clochait. Tout ce qui a été fait à part, qui n'avait pas vraiment de sens avec l'univers même, Dave Filoni, il est tout allé chercher ça.
Il attache tout ça.
Puis il a tout attaché ça pour faire un seul univers.
Tout ce qui traîne, là,
il ramasse, puis il donne des explications. C'est ce qu'il a fait avec la Guerre des Clones, la série de la Guerre des Clones. C'est ce qu'il a fait avec la série Rebelle et c'est ce qu'il fait avec la série Bad Batch. Il prend très à cœur cet univers-là. Il prend beaucoup à cœur ce que les fans pense de l'univers de Star Wars également. Donc, il a vu les critiques des fans comme quoi, justement, le clone de l'Empereur, ça sort de nulle part. Ah ouais? Correct. M'a vous trouver une origine. M'a vous trouver quelque chose qui rattache tout ça. Et c'est ce qu'il fait avec la saison 3 de Bad Batch. C'est vraiment très, très bon. Si vous avez écouté la série de la Guerre des Clones, si vous avez écouté la série Rebelle, vous allez aimer la série Bad Batch. C'est le même concept, c'est la même animation, c'est le même storyline, c'est de très très belles histoires, c'est bien écrit, c'est bien présenté. C'est vraiment très très bon. Il y a des scènes qui sont... Pour une série animée, il y a des scènes, qui sont vraiment très touchantes. Malgré que ça soit dans un univers de science-fiction de la guerre des étoiles où c'est, le monde pense juste que c'est du piou 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 piou. C'est touchant, il y a vraiment de très belles scènes. Je vous le recommande très fortement. Je passerai pas vraiment plus longtemps là-dessus parce que j'en ai déjà parlé. Si vous voulez voir le voice acting, allez faire un petit tour sur IMDb. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de voice acting. C'est les mêmes acteurs qui rejouent, qui reprennent leur rôle pour la saison 3. Au niveau des notes, après la sortie des derniers épisodes de la saison 3, il y a 4 épisodes. Le cinquième sort ce soir, je crois. On est à 7.8 sur 10 sur IMDb, sur plus de 50 000 reviews. Donc, c'est quand même très bon pour une série animée, surtout sur IMDb. Rotten Tomatoes, c'est un 87% critique, 86% audience. C'est très, très, très apprécié. Et je l'apprécie moi-même. C'est une série animée. C'est des épisodes de genre 22-23 minutes. Ça s'écoute très, très bien. Si vous êtes un amateur de la Guerre des Étoiles, vous ne pouvez pas passer à côté de la série de Bad Batch. Donc, je vous le recommande fortement. Pour moi, c'est un 9.5 sur 10. J'adore cette série. Je vous le recommande très, très, très chaudement. C'est sur Disney+. Évidemment, ça pourrait être abonné à Disney+, pour pouvoir l'écouter. Mais je sais, j'ai déjà vu certains films de l'univers de Star Wars qui étaient uniquement Disney+, qui commencent tranquillement à sortir en Blu-ray et en DVD. Même chose pour Marvel. Il y a des affaires tranquillement qui sortent.
Oui, c'est vrai. Puis j'en ai pas parlé l'autre jour dans ma critique du 20 février. Mais Disney, c'est ABC. Mm-hmm. Only Murders in the Building, saison 1, qui est présentement à l'affiche. Donc, ceux qui n'ont pas Disney+, mais qui ont la télé en anglais sur ABC, ils passent la saison 1. Donc, ils vont prendre de leur matériel, puis ils vont commencer à le passer à la télé. Je sais qu'ils sont aussi propriétaires de National Geographic. Il y a du stock qui fait les deux places. Donc, vous n'aviez pas Disney+, et vous vouliez écouter Only Murders in the Building, une série dont j'ai parlé plusieurs fois et que j'adore, série d'enquête policière, regardez sur demande la télé ABC. La saison 1 est présentement à l'affiche. Ça vaut la peine de jeter un œil si vous ne l'avez pas encore fait.
Puis ça fait longtemps que je le mentionne que c'est quasi impossible qu'une compagnie comme Disney décide de laisser leur programme uniquement sur leur plateforme. Oui, ils vont les sortir sur leur plateforme en premier parce qu'ils veulent promouvoir leur plateforme. Mais éventuellement, après 4, 5, 6 ans...
Les films passent à la télé.
Ils veulent, ils veulent continuer de faire de l'argent avec ça. Donc là, ils vont les sortir à la télévision. Ils vont les sortir en Blu-ray. Ils vont les sortir en DVD.
Absolument.
Donc, c'était sûr que ça allait commencer. Et j'en ai vu plusieurs commencer à sortir en Blu-ray. Donc, si vous n'avez pas Disney+, et que vous voulez les écouter, soyez juste patient comme bien d'autres choses. Éventuellement, vous allez trouver votre porte pour pouvoir les écouter. Que ce soit à la télé ou soit en Blu-ray. Donc, The Bad Batch sur Disney+, univers de Star Wars, série animée, 9.5 sur 10. Allez, écoutez ça. Nous sommes donc rendus au dernier segment, qui je crois sera quand même assez rapide de ce que j'ai cru en entendre jusqu'à ce jour.
Je confirme.
Film qui sera présenté par Bedu.
Bien sûr. Un film qui est sur Netflix... qui se nomme Freelance. Ou,
donc, lance gratis.
Ouais, c'est plus...
Non, c'est pas ça.
Non, okay. Agent libre.
OK.
mettant en vedette John Cena, le lutteur-acteur, et Alison Brie, donc l'actrice qu'on a principalement... qui a fait beaucoup de voice acting, mais on l'a connue pour la série Glow sur Netflix, qui a fait la lutte féminine dans les années 80, là. C'est pas son le rôle où on le. Parce que moi, de où je la connaissais.
Ouais, c'est son nom, c'est quelque chose.
Ouais, et aussi Christian Slater, un acteur italien, qui joue un rôle qui joue comme le meilleur ami de John Cena.
Tu m'as dit qui le nom?
Alison Brie.
Brie.
Donc, qu'est-ce que c'est que Freelance? C'est l'histoire d'un soldat, force armée spéciale, Mason Petites. Qui est interprété par John Cena. Dans le fond, lui et les autres, son équipe sont envoyés avec son ami, justement, là, Sebastian, qui est joué par Christian Slater. Ils sont envoyés dans un pays d'Amérique du Sud, un pays fictif, donc un pays qui n'existe pas, pour tuer le leader qu'on dépeint un peu comme une espèce de
dictateur.
Dictateur, c'est ça. Ce qui va arriver, c'est que leur hélicoptère va se faire abattre. Petit se fait blesser, obligé de se plusieurs de ses collègues qui meurent. Lui est obligé de se retirer de l'armée parce qu'il est blessé au dos. Il reprend des études en droit, qu'il avait un intérêt pour ça, qu'il avait commencé. Et puis, il devient avocat, mais genre dans des cas de clôture de voisins, des affaires de même, là, tu sais. Il n'aime pas sa vie, il a un enfant, il a une femme, puis il trouve que sa vie est plate, puis ça va pas super bien dans son couple. Et il se rend compte que son meilleur ami a parti une firme de sécurité privée. Et il fait appel à lui pour aller escorter une journaliste qui est jouée par Alison Brie. Salut. Qui est, elle veut comme reprendre un peu du galon parce qu'elle avait fait des erreurs, puis là, elle est un peu condamnée aux faits divers alors que c'était une grande journaliste. Puis là, il doit l'escorter pour assurer sa protection dans le pays du début.
Of course.
Pour elle, elle va interviewer le dictateur. Du début.
Okay.
Bon, c'est ça la première du film. Là, lui, ça fait pas son affaire parce qu'il allait là pour le tuer au départ. Mais là, il y va pour, dans le fond, parce que sa vie est plate, puis il a besoin d'un peu d'adrénaline. C'est l'amorce du film. C'est un film d'action.
On s'en doute un petit peu.
Comédie d'action.
Avec John Cena, d'habitude, c'est rarement un drame romantique.
C'est ça. Donc, comédie d'action. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Je l'ai écouté avec mon épouse qui m'a dit à la fin, le meilleur bout, c'est les bloopers. Post-générique.
Ce qui parle beaucoup.
Ouais. Qu'est-ce qui me dérange le plus de ce film-là?
C'est le film en entier.
Non.
D'accord.
Non. C'est le dictateur.
OK.
Qui est joué par un acteur inconnu, Juan Pablo Rabat, qui joue le Monsieur Venegas. Tu sais pas s'il est épais ou s'il est drôle.
Ah, ou s'il est... OK.
Ou s'il est intelligent, parce que comme il va arriver des affaires, tu dis, s'il est wise, ou il est chanceux, ou il est vraiment cave, ou finalement, c'est vraiment un bon dictateur, pas un bon dictateur, mais un bon dirigeant de pays qui est pas vraiment un dictateur. Tout le long, tu te questionnes, tu te dis, mais c'est tellement mal joué. Lui, il est tellement mauvais dans son rôle. Il est pas crédible. Tu te dis, ce gars-là peut pas diriger un pays riche en pétrole puis riche en minéraux, parce que c'est l'essentiel de ça, pourquoi les gens veulent renverser le gouvernement, c'est prendre possession des ressources naturelles. Il y a une milice extérieure, des espèces de mercenaires qui sont là. Là, tu fais, mais il est donc ben tata.
Est-ce que ça pourrait être voulu, justement, qu'il aille l'air aussi tata que ça? Est-ce que ça pourrait faire partie du côté comique?
Mais je pense que oui. Je pense que c'est voulu de le rendre sympathique, que finalement, il n'est pas si méchant que ça. Mais c'est tellement mal amené que tout le long, je me disais, mais c'est vraiment un épais. Ouais, c'est vraiment tout le long, ça m'a dérangé tout le long du film. Écoute, John Cena est reconnu pour son talent d'acteur. Quoique dans Peacemaker, il c'est vraiment bon. On l'a vu là, dans The Suicide Squad où il fait le reprendre le même rôle, la série Peacemaker disponible sur Crave. C'est ça. Des jokes.
C'est ce côté comédie.
Mais pipi caca poil, là, on fait encore référence au gros pénis de John Cena, qu'on a fait référence dans Peacemaker Suicide Squad, dans ses bobettes blanches.
Mm-hmm.
Il y a une scène où ils sortent de la douche et là, ils font référence à, voyons donc, t'as donc ben un gros membre. Okay. Et il y a plein de spets de jeux de mots parce que lui, son personnage s'appelle Mason Petit, P-E-T-T-I-T-S.
Mm-hmm.
Et là, ils font des jokes de ah oui, mais elle est pas petite.
Ok.
On aurait besoin d'un petit peu de quelque chose. Tu sais, des espèces de jokes.
Des jeux de mots de papa, finalement.
Non, c'est. Hey, écoute, j'aime les jokes de père, là. Puis c'est même pas assez drôle pour ça.
Okay.
Ça fait un peu l'agent fait la farce.
Ok, ouais.
Je comparerais ça un peu à l'agent fait la farce.
La farce est bon pourtant.
Oui, mais là, c'est en 2023 okay, ouais. que c'est fait versus 1987.
Ouais.
Tu fais. Bon, on est rendu ailleurs, mais pas. C'est moins drôle que l'agent fait la farce, okay. définitivement.
Okay.
Tu sais, lui, il est blessé au dos. Et là, dans quelques reprises, aïe, aïe. Mais à un moment donné, il se bat. Là, il a plus mal au dos. T'sais, il vend pas. Tu sais, nous, un fan de lutte, quand tu es blessé au genou puis on t'attaque, tu vends ton genou. Là, il vend son dos deux fois. Le reste du temps, il n'est pas si mal que ça, je pense.
Peut-être qu'il prend des painkillers. Tu ne sais pas ça.
Oui, je le sais. C'est ta tactique. Tu as raison, peut-être. Je trouve ça va. Ouais, c'est ça. Tout le long, c'est comme. Ouais, mais. C'est... En tout cas, c'est ça. Je savais pas comment prendre le film.
Yeah.
Visuellement, ça. Tu sais, c'est tourné dans un aspect d'Amérique du Sud. C'est beau. Mais les méchants sont les méchants qui tirent le moins bien. Je pense que les Stormtroopers sont meilleurs.
Ouh, c'est pas peu dire.
Référence à Bad Batch.
C'est pas peu dire.
Ça tire tout. C'est, écoute, ils tirent. Ils se font courir après, à un moment donné, à cheval. Et les autres sont dans des jeeps avec des mitraillettes. Puis il n'y a personne qui réussit à se faire tirer dessus.
C'est le principe du over-caricaturé, dans le fond.
Ben, c'est ça. Mais il n'y a pas de genre, il n'y a pas un gars qui se fait tirer au hasard puis qui tombe, là, tu sais, genre comme dans les films, un peu. Là, mais tu sais, tu dis, non, mais ça se peut pas, ils sont vraiment pas bons. Les méchants sont pas bons, le dictateur, il est un peu tata. Fait que c'est ça. Tu sais, je l'ai écouté parce que c'était nouveau sur Netflix.
Il n'y a rien qui sort à cause des grèves.
On a parlé, puis c'est John Cena, on est fan de lutte. Bon, je vais l'écouter. Ça dure 1h30, je pense, là. Vous confirme ça. 1h48.
Oh, quand même.
Ouais, c'est long. Puis c'est ça. Voilà.
D'accord. Les notes.
On va s'en parler. Écoute, IMDb donne 5.5.
C'est pas très bon.
Non, mais il donnait 3.7 à Madame Web.
T'as un point. Là-dessus, t'as un point. Donc, il serait meilleur que Madame Web selon.
Selon IMDb.
Okay.
Pas selon moi.
Okay.
Mais, Rotten Tomatoes, les critiques donnent 76%.
C'est bon, là.
L'audience donne 76%.
Combien de reviews?
Sur 100 plus vérifiés.
Ok, ouais.
Ouais, c'est ça, là.
C'est pas beaucoup
76 de l'audience.
C'est pas beaucoup de monde qui ont des critiques.
Veux-tu savoir les critiques? 6%.
Ah. Il y a un très bon. On voit un gap.
Hey, 6%, c'est bon pas gap. Haut,
6%, 76%, il y a de quoi qui marche pas, là.
Ouais, c'est
ça. Si, là, c'est là qu'il faut que tu te poses des questions souvent quand tu vas voir des sites de même. De pose-toi des questions. C'est-tu normal que les critiques donnent 6 mais que l'audience donne 76? Il y a quoi qui cloche à ce niveau-là? Là.
Parce que notre référence, on en a parlé tout à l'heure, c'est Eternals.
Oui.
Eternals, les critiques donnaient 47%.
Ça, j'ai jamais compris d'ailleurs.
Et l'audience à 77% sur beaucoup plus de revues.
J'ai jamais compris.
Donc, pour Freelance, si on y va. Mais les critiques, je pense qu'il y a. Je vais regarder, là, je pense qu'il y a 34 critiques.
Ben, quand même, 34.
Donne-moi deux critiques. Secondes, là, je vais valider. 36 reviews.
Ben, quand même.
C'est ça, 6%. Bon, tout ça pour dire que.
T'as l'air à toi.
C'est pas bon. Je vais donner un 3 sur 10.
Oh.
Écoutez pas ça.
C'est à éviter.
Wow, vous avez. Il y a d'autres choses de meilleures que ça. Là. Rattrapez-vous sur des affaires que ça fait long, que vous laissez traîner depuis longtemps qui sont dans votre liste.
Ça,
là.
C'est une bonne idée. Ça.
Vous allez passer ça deux meilleures heures que quoi que ce soit. Hey, il y a deux critiques qui ont donné une fresh, par exemple. Les autres sont toutes rotten, mais il y a deux critiques qui ont donné
une fresh.
Ben, je sais pas trop. Mais c'est pas grave. Bref, c'est pas bon.
Voilà. Freelance à éviter sur Netflix.
Ah, définitivement.
Voilà, ça conclut pas mal notre épisode du mois de mars. Merci d'avoir été là pour cette belle écoute. J'espère qu'on vous a au moins suggéré quelque chose d'intéressant, que ce soit Bad Batch ou Shogun. J'espère qu'on vous a sauvé du temps en vous parlant de Freelance. J'espère qu'on vous a sauvé de l'argent en parlant de Madame Web.
Ah, c'est bon. Le temps est bon, mais l'argent, on
peut. Je pense qu'on a été capable de vous sauver quelque chose et de vous donner quelque chose d'intéressant à écouter ces temps-ci, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant. Donc, tant mieux si on vous a donné le goût d'écouter quelque chose. On a fait notre job et on est bien content. Merci donc d'avoir été à l'écoute. Il y aura, comme à l'habitude, deux capsules express ce mois-ci. Est-ce qu'elles seront présentées le 10 et le 20? Moi, probablement. Il y a de bonnes chances que je vous parle du jeu Final Fantasy VII Rebirth, qui est la suite de Final Fantasy VII Remake, qui est le gros méga remake de l'original Final 7 qui avait sorti sur la PlayStation. Donc moi, je vais sûrement vous parler de ça. Bedu, tu verras ce que t'écoutes. Si t'as de quoi de prêt pour le 20, tant mieux! Sinon, on pleurera pas pour ça. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur nos pages. N'oubliez pas de partager les bonnes nouvelles. Et merci d'avoir été là encore une fois. On se revoit très bientôt pour une capsule express. Et sinon, pour l'épisode mensuel du mois d'avril, qui va probablement ressembler au mois de mars. On n'a pas vraiment de thématique de prévu, donc on va voir qu'est-ce qui sort. Il y a Ghostbusters qui sort le 22, donc fort possiblement qu'on va essayer de vous parler de Ghostbusters. Sinon, on verra ce qui sort également, puis on va vous pondre quelque chose d'intéressant pour le mois d'avril. Donc, merci d'avoir été là, à très bientôt, portez-vous bien, et continuez d'écouter ce que vous êtes capable d'écouter, il n'y a pas grand-chose, mais là, je sais pas, ce trou noir, finalement.
Bye,
bye tout le monde, à la prochaine.